Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aïe Néné. Aujourd'hui, j'ai interviewé Tatiana Bazin. Tatiana est la définition même de la mompreneur. Elle a créé toute une gamme de produits capillaires, elle gère un salon de beauté, elle fait des événements, elle voyage. Bref, Tatiana est partout et malgré cela, elle a toujours du temps à accorder à son fils. Aujourd'hui, on va parler de ça, de déculpabilisation, d'entrepreneuriat, de mindset et d'éducation des leaders de demain. Vous verrez, elle est super fraîche, elle est pétillante. Bref, moi j'ai adoré l'avoir ici. Sur ce, je vous laisse écouter et si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera super plaisir. Bonne écoute! Coucou Tatiana, comment tu vas?
Salut, ça va bien et toi?
Oui, ça va, merci. Alors Tatiana, encore une fois, je te remercie d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode avec moi. Vraiment,
merci, ça fait super plaisir.
Ah, c'est gentil.
Merci à toi, c'est à moi que ça fait plaisir. Je vais papoter.
Ouais, c'est clair. Non mais ouais, pour le coup, je suis vraiment contente parce que je trouve que tu dégages quelque chose, tu dégages de la motivation, de l'ambition, tu donnes envie de se dépasser et donc au final, le fait de t'avoir là en tant que maman, sachant tout ce que tu as fait à côté, bah, je trouve ça vraiment top parce que ça va pouvoir aider d'autres mamans qui peuvent en fait galérer un petit peu ou culpabiliser du fait de leur activité, que ce soit en tant qu'entrepreneuse ou en tant que salariée, ou même en tant que maman en fait, tout simplement. Et donc vraiment, pour le coup, ça me fait plaisir de t'avoir pour que tu puisses nous partager ton expérience.
C'est trop gentil. Mais non, mais j'ai hâte de partager. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me plaît. Si on s'entraide pas, s'il y a pas cette sororité là entre nous, ben ça va pas le faire. Donc si on peut permettre à certaines de gagner du temps, de l'énergie, et ben on y va.
Hein. Ah, c'est cool. Bah, alors dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, bien sûr. Alors moi c'est Tatiana Bazin. J'ai 35 ans, je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Timothée et qui a 6 ans, bientôt 7, attention, c'est très important, 6 ans et demi. Et je suis la fondatrice de la marque Tatiana B Cosmetics et de l'association Le Cœur Rose.
D'accord. Et donc, Tatiana, tu es née en région parisienne, tu as grandi en Rhône-Alpes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance et de l'éducation que tu as eue?
Alors, j'ai donc grandi, enfin jusqu'en CM1, j'étais sur la région parisienne avec ma famille. Puis on a déménagé pour des raisons professionnelles du côté de mon père. On a suivi mon père sur Lyon. C'était génial, mais bon, ça changeait beaucoup. On n'était même pas sur Lyon, on était dans une petite ville où on était la seule famille noire. En fait. Donc voilà, c'était particulier au début. Et puis mes parents ont divorcé et du coup on a grandi ensuite chez nos grands-parents, mes grands-parents paternels. Donc dans une famille franco-française et dans un petit village, dans une petite ville, voilà. Et on a grandi vraiment malgré les divorces, le divorce de nos parents, on a grandi quand même dans un cadre harmonieux et un cadre rempli d'amour.
Ah, cool. Et tu dis nos ou nous, donc tu as des frères et sœurs?
Voilà, j'ai deux frères. Ma mère a eu... On est les familles recomposées, nous.
D'accord.
Donc, on est trois du côté de ma mère et mon père ensuite s'est remarié, a eu deux enfants, deux garçons encore, donc j'ai quatre frères.
D'accord. Ah oui, t'es la seule fille?
Je suis la seule fille, ouais, je suis l'aînée.
Et ça va, ça a été?
C'est moi le boss. ouais, ça a été. Non, ça a été, franchement. Après, bon, bah, c'est des garçons, ils ont d'autres centres d'intérêt. J'ai grandi comme étant la seule fille, un peu fille unique, un peu parce que j'étais la seule fille, mais j'ai des frères que j'adore, qui sont des exemples pour moi. Je leur dis pas assez, mais d'ailleurs, s'ils écoutent le podcast, tant mieux. C'est vraiment des exemples pour moi. Pourtant, c'est mes petits frères, mais... Ils sont tout comme moi dans la persévérance, voilà, c'est des bosseurs et voilà.
Ah, c'est cool. Et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire et ton parcours professionnel?
Alors, j'ai eu un cursus classique jusqu'au bac, donc j'ai eu un bac littéraire. Ensuite, à la suite de ça, j'ai fait des diplômes de coiffure et d'esthétique. Et je me suis tout de suite lancée dans l'entrepreneuriat dès la sortie de l'école, avec l'ouverture de mon premier espace salon de coiffure, beauté, esthétique, etc., sur Lyon, donc à l'âge de 21 ans, presque 22.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivée en fait à faire ça?
C'était une envie personnelle déjà de me challenger. Je suis issue aussi d'une famille d'entrepreneurs, donc mes grands-parents qui m'ont élevée sont entrepreneurs. Enfin, mon grand-père est entrepreneur, ma grand-mère elle est entrepreneur boss de la maison en fait. C'est voilà, c'est le boss.
Elle gère tout.
Elle gère tout. C'est une entrepreneur vraiment. Parce qu'il y en a qui pensent que mère au foyer c'est pas une entreprise, mais c'est une vraie entreprise. C'est la plus difficile même. Donc voilà, que des entrepreneurs. Ma mère entrepreneur et mon père entrepreneur. Donc du coup, pour moi c'était logique d'entreprendre. Et dans le secteur de la beauté, d'autant plus parce que ma mère est coiffeuse de métier aussi. Et donc voilà, pour moi, c'était logique. Je ne me suis pas posé la question, est-ce que j'irais travailler pour quelqu'un ? Je ne me suis jamais vue vraiment travailler pour quelqu'un. Donc, même si je l'ai fait hein, dans mon parcours professionnel, après j'ai eu à travailler pour un groupe, mais de cosmétiques. Mais voilà, la question ne s'est pas vraiment posée. J'ai su depuis petite que j'allais être entrepreneur.
D'accord. Ouais, c'était évident, quoi.
C'était évident.
Ok. Et donc, tu as créé ta société, Tatiana B. Elle est en pleine expansion. Comment est-ce que tu fais pour concilier ton rôle de mère et de boss lady ?
Alors, pendant longtemps, j'ai été solopreneur, c'est-à-dire que j'ai tout fait.
Ouais.
De A à Z, les réseaux sociaux, les mails, les messages, les photos, tout. Pendant longtemps, j'ai tout fait. Et après, bon, bah, quand on commence à avoir du volume de commandes, etc., bah, il faut changer son organisation. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être super bien entourée. J'ai une équipe de folie. D'ailleurs, on va être dans la confidence, mais je serai avec ta sœur,
oui,
Aïcha, qui est mon assistante personnelle, mais plus que ça encore. D'ailleurs, on a eu cette conversation il y a quelques jours. Elle est plus que ça. Elle est, c'est mon bras droit. Mais aujourd'hui, elle a une autre place. C'est comme une partenaire. Donc, j'ai la chance qu'elle soit là parce qu'elle m'allège beaucoup dans mon travail, dans mon organisation. Donc, je peux accorder beaucoup de temps à mon fils. Ça. Et j'ai aussi une équipe d'infographistes. Je suis entourée que de femmes extraordinaires, franchement. Que ce soit même à l'expédition, je travaille maintenant avec une jeune fille qui s'appelle Carla, une jeune femme d'ailleurs qui est mère célibataire aussi. Donc on se comprend, on se complète. Et du coup, bah, ça me permet vraiment de pouvoir alléger du temps pour mon fils, puisque c'est aussi pour moi, il est très important. Et je tiens à m'occuper de lui, mais comme si je veux pas que lui il sente que moi je suis entrepreneur. Je veux pas que ça se sente. Qu'ils sentent que je suis dans le rush, qu'il y a du travail. Parce que sinon, c'est lui donner aussi une mauvaise image du travail. Voilà, j'ai envie qu'il voit ça comme quelque chose de fun. Travailler, ça, c'est bien. C'est vrai que c'est pas toujours facile parce que des fois, il voit que c'est pas facile, mais voilà, faut pas que je le braque tout de suite. Donc voilà, mais c'est une question d'organisation et il faut savoir déléguer. À un moment donné, si on veut pouvoir accorder du temps à son enfant ou sinon, il y a un moment où il y aura un manque quelque part. Il va falloir qu'on fasse un choix, il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on sacrifie.
Ouais,
donc si on peut pas déléguer, on va devoir sacrifier quelque chose. Et c'est dommage de sacrifier son rôle de mère, quoi.
Bah justement, en fait, toi, quel genre de mère est-ce que tu es aujourd'hui ?
Faudrait demander à mon fils. quand je lui dis qu'il a le droit de jouer à la Nintendo, il dit je suis la meilleure maman du monde.
Ah, la base.
Donc, mais quand je lui dis non. Mais non, je pense que je suis une maman aimante. Je suis une maman qui essaye de donner l'exemple. Je fonctionne beaucoup par le lead by example. Je peux pas dire à mon fils va te brosser les dents, lave-toi et tout. Si lui-même il me voit pas le faire. Donc voilà, j'essaie d'être maman un peu qui donne l'exemple. Voilà, je fais mon lit, donc tu fais ton lit. Je range mes affaires, donc essaye de ranger tes affaires. Enfin voilà, j'essaie de fonctionner comme ça, plutôt que de donner des ordres. Regarde-moi faire et fais-le. Je suis plutôt ce genre de maman. Mais je suis une maman quand même qui, jusqu'à aujourd'hui, je culpabilise encore beaucoup.
Mom-shaming.
Le mom-shaming, voilà. Ça, c'est... Je sais pas si ça nous lâchera un jour. Mais voilà, je suis un mélange de maman très confiante, je m'organise, je fais des trucs et tout pour lui. Et à côté de ça, j'ai l'impression que j'en fais jamais assez, que c'est jamais bien. Mais ouais, comme toutes les mamans, quoi.
Normal. Et d'ailleurs, tu m'avais dit que tu l'avais inscrit à l'école des leaders, c'est ça?
Oui.
Vas-y, tu peux nous raconter un petit peu parce que ça a l'air vraiment cool.
Ouais. Alors ça, d'ailleurs, je sais même plus comment j'ai découvert cette. Ah si, j'ai découvert cette page parce que ma chargée d'affaires pour le business africain, celle qui s'occupe de mon développement en Afrique, elle a partagé un post sur justement cette école-là et ça dit ça. Pour moi, ça m'a parlé tout de suite parce que déjà, comme je souffre de mom shaming. Parce que je sais que je peux pas tout donner à mon fils. En fait, ça, souvent, c'est parce qu'on se dit, on peut pas tout offrir à son enfant et on aimerait tout offrir à son enfant. Mmh. Tu sais, quand t'es enceinte, t'as des grands espoirs pour ton enfant. Ouais. Tu dis, moi, comme je suis bilingue, il va naître, je vais lui parler moitié en français, moitié en anglais, je vais lui apprendre les maths, il va arriver au CP, il sera déjà lire.
Ouais. Tu mets des, c'est ça, il va manger
bio. Des objectifs. Mmh. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et du coup, je me suis rendu compte avec le temps que je pouvais pas tout faire.
Oui.
Et que même là, il y a des trucs que j'ai envie. Par exemple, tu vois, je lui achète des livres sur Martin Luther King, Nelson Mandela. Tu vois, je suis un petit mon taf. Mais des fois, je peux pas tout faire, quoi. Je ne peux pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec cette école, ils proposaient une autre éducation que l'école ne propose pas. L'école, c'est le B.A.B.A. B.A.B.A. 1 plus 2, 3. Voilà. Mais Clésis, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'ils sensibilisent les enfants à l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est hyper important.
Ouais.
À qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur? On n'est pas obligé d'être un adulte pour être un entrepreneur. Ils ont un slogan qui est « Je peux tout accomplir ». Donc, quand l'enfant, il se répète ça, en début de séance, en milieu de séance, en fin de séance, il prend confiance en lui. Ils sensibilisent à la politique, à l'écologie, aux finances. Tout ce qu'on n'apprend pas
à l'école.
À l'école.
Ouais.
Mais moi, je suis les cours parce que comme c'est le Covid, ils sont plus en présentiel.
Ils sont en
ligne. Ouais. Voilà. Donc, j'écoute maintenant, je sais ce qu'ils font.
Ouais.
C'est hyper ludique.
Ouais.
C'est canon. Ils ont en plus une plateforme maintenant qui est le Netflix, des futurs leaders. C'est canon. Et franchement, ça m'apaise, en fait. C'est les samedis. Les samedis, souvent, on sait pas trop quoi faire avec ses enfants.
Oui, là, c'est des séances. Ou des trucs comme ça. Et puis là, au final, ça change.
Voilà. Parce qu'il fait déjà du sport à côté, en semaine. Donc les week-ends, c'est en plus des moments où je continue de travailler. Je travaille les week-ends, on est entrepreneur, il n'y a pas de week-end. Hein.
Ouais.
Donc du coup, ça me permet de moi pendant 3-4 heures, je me pose, je travaille. Et lui, je sais que je ne le laisse pas juste devant un dessin animé. Il s'éduque, il est en interaction avec d'autres enfants. Enfin, j'adore. Enfin, moi, franchement, c'est vrai que c'est un budget, c'est un investissement, mais... Quand c'est ses enfants, ça y a rien, ça compte pas ça.
Oui, c'est clair. Non, mais en tout cas, c'est top parce que, comme tu l'as dit, le fait qu'ils puissent apprendre des choses qu'on nous apprend pas forcément à l'école, que t'es obligé d'apprendre sur le tas, ou si t'es pas dans un environnement propice à ça, ben en fait, t'arrives au moment enfin, où t'as fini tes études. Et par exemple, les choses toutes bêtes, ils t'éduquent financièrement. Moi, je sais que quand j'ai reçu mes premières payes, en fait, je balançais tout. J'allais à Zara, j'allais à la Défense, je faisais du shopping et tout. Et sans penser forcément à mettre de côté ou quoi, parce que j'avais pas forcément reçu cette éducation-là dans ma famille et encore moins à l'école. Et c'est après, en fait, en côtoyant d'autres personnes, en réalisant, en fait, que j'aurais peut-être besoin, en fait, de faire ça pour des projets que j'ai commencé à m'y intéresser, mais de moi-même ou de par mon éducation, j'ai pas eu toutes ces informations-là. Et le fait que eux puissent l'avoir en plus dès le plus jeune âge, moi, je trouve ça vraiment bien. Et pour moi, ça devrait être obligatoire dans toutes les écoles.
Ouais, c'est sûr, mais ils vont jamais nous apprendre.
Non.
Ils vont jamais nous apprendre. Faut pas qu'on se leurre. On est dans un monde où c'est pas tout qu'ils veulent apprendre à nos enfants. Il faut garder certaines personnes dans un déni, c'est important pour la société.
Ouais. Non, mais c'est vrai.
C'est ce qu'ils veulent.
Ouais.
Ben, c'est ce qu'ils veulent. Donc après, nous, en tant que parents, on a cette responsabilité-là. Et je pense que on peut pas le faire aussi de nous-mêmes si on l'a pas appris.
Ouais. C'est ça.
Donc, s'il y a des professionnels qui sont là pour apprendre à nos enfants comment gérer leur argent, comment budgétiser, comment réaliser un projet, comment d'une idée, ça devient quelque chose de concret. On l'apprend, comme tu dis, sur le tard. Donc, franchement, si on peut le faire faire, et puis voilà. Et puis, c'est pour montrer que, voilà, on est capable de faire des choses, que ce soit dans notre communauté ou ailleurs. On est capable de faire des choses. On peut tout accomplir. Point. Ouais.
Et même, comme tu as dit, le fait qu'il se répète « je suis capable, je suis capable », en tant que petit garçon noir, surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec les questions de racisme, Black Lives Matter et tout, il a besoin en fait que quelqu'un d'autre que sa mère ou que son cercle familial lui dise « tu en es capable ». Parce que ça, en tant que mère, on le dit tout le temps, mais bon, c'est comme quand tu dis « tu es beau », enfin, t'es le plus intelligent, voilà, t'es sa maman, donc bon, il a l'habitude, et même si ça lui fait du bien, c'est dans son cercle, donc voilà. Mais que ce soit d'autres personnes dans d'autres circonstances, ça le booste en fait.
Ouais, ça le booste. Et puis, il faut savoir que c'est une école qui a été fondée par une femme noire, Millie, et son associé Guy, qui sont tous les deux issus de notre communauté, de la communauté noire. Donc, franchement, ça, c'est encourageant. C'est un modèle aussi. Je suis maman célibataire, donc... des fois aussi ça manque de se dire il a besoin d'autres personnes qui vont l'éduquer dans le quotidien. Donc vraiment ils ont un autre, ça me décharge un peu.
Ouais.
Tu vois, ça me décharge et je me dis que bon là je fais bien, il aura une autre éducation par d'autres personnes qui lui ressemblent, qui font des choses comme lui, qui ont envie de faire des choses, enfin voilà. Et puis il y a d'autres enfants dans sa session, parce que c'est par petits groupes, qui sont mais brillants quoi. Je veux dire, Timothée c'est l'un des plus petits je pense de son groupe, parce qu'il a 6 ans. Il est avec des 6, 7, 8. Oui. Ouais, c'est des 6, 7, 8. Mais il y en a qui ils sont brillants quand je les écoute. Je dis mais je me rapproche de l'écran comme ça, mais c'est qui a dit ça? Ils ont des idées, ils sont brillants et lui ça le booste quoi.
Ouais.
Des fois, il dit, oh, mais t'as vu, lui, il était trop intelligent, hein. Il a dit ça. J'ai dit, bah oui, tu vois, il est un peu plus grand que toi, mais il a dit ça. Faut pas être impressionné. C'est bien. Ça veut dire que toi aussi, ton petit cerveau, il est capable.
Ouais. Non, c'est cool. Vraiment, c'est une super initiative, je trouve.
Ouais, il faut vraiment encourager tout le monde à aller sur cette plateforme parce que c'est des choses que si on avait su avant, on aurait vraiment gagné du temps et c'est bien, quoi. Enfin, c'est intéressant. Vraiment.
D'accord. Oh, c'est cool. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux autres mamans entrepreneurs, aux mamans solo, aux mamans qui travaillent, quelque chose pour les aider à déculpabiliser et à se donner au maximum dans leur activité?
Je pense qu'il ne faut pas culpabiliser parce que de toute façon, tout ce qu'on fait, on le fait par amour. Et je ne sais pas qui c'est qui m'a dit ça. Peut-être c'est toi-même d'ailleurs, je ne sais pas. Mais quoi que tu fasses, si tu le fais bien, on va te redire que tu fais mal. Si tu fais mal, on va dire que tu fais mal. En fait, on va toujours te dire que tu fais mal.
C'est clair.
Donc, je pense que il faut faire ce qu'on peut.
Oui.
Et ça suffit. Ce qu'on peut pas, on délègue. Il faut se concentrer sur ce que vous faites. Votre travail, c'est important parce que sans votre travail, vous pourrez pas inculquer certaines valeurs à vos enfants. Dans tous les cas, même si vous ne travaillez pas et que vous êtes à la maison, faites les choses bien. Allez jusqu'au bout d'être une femme au foyer. Allez jusqu'au bout, c'est pour le bien de votre enfant. Si vous êtes entrepreneur, allez jusqu'au bout. Si vous êtes salarié, allez jusqu'au bout. Si vous êtes solo, c'est OK. Ce n'est pas la fin du monde. On est des milliers, en fait. Des centaines de milliers, même.
Ouais.
Peut-être des millions.
Ouais.
Donc, faut arrêter de se culpabiliser en disant oui, mon enfant, il va souffrir, j'ai été égoïste, j'ai fait un choix qui va perturber mon enfant. On fait ce que on peut, on leur donne le maximum, mais on leur accorde aussi du temps. C'est-à-dire que on s'organise, on fait un planning et on se dit au moins ce jour-là, on est off. On a le droit aussi de souffler, on a le droit d'être off dans notre travail un jour au moins par semaine et on le dédie à 100% à nos enfants. On décroche. Et puis aussi, il faut avoir le lâcher-prise, quoi. Il faut apprendre le lâcher-prise. Vous avez le droit d'être fatigué, de vous poser, d'aller dormir, faire une sieste. Quoi. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. Non, mais moi, j'ai une amie qui a lancé son cabinet d'infirmière, ma meilleure amie. Et des fois, elle est claquée. Elle m'appelle, elle est fatiguée, je l'entends. Je dis, mais va te coucher. Tes enfants, ils sont à l'école. Ouais, mais j'ai tel, tel papier, nana. 15 minutes, 30 minutes. Mm. Repose-toi, tu seras plus, même quand tu vas aller récupérer tes enfants à l'école, tu seras plus posée.
Ouais, tu seras moins sur les nerfs.
Moins sur les nerfs. Des fois, on arrive 18h, c'est là où les enfants, ils sont excités.
Mm.
Et nous, on est KO.
Ouais.
Accordons-nous 15 minutes dans la journée.
Oui, c'est vrai.
On va pas mourir. Hein. Et personne va nous blâmer parce que on n'a pas eu le temps de plier les chaussettes. C'est pas grave, après. Faisons ce qu'on peut. Arrêtons de nous culpabiliser. Et si vous avez la chance d'être des mamans accompagnées dans votre vie avec des papas, qu'ils fassent aussi leur part. Déléguer, on peut très bien vous aider. Vous pouvez. Parce que nous, quand on est des femmes, on veut tout faire.
Ouais.
Le ménage, la bouffe, plier, ranger. Mmh. Sinon, on veut repasser. On veut. Accordons-nous du temps.
Tout en étant belle, en étant une femme, en étant sexy à la maison.
Non. On peut pas.
Non,
mais tu vois ce que je veux dire. On peut. C'est possible. Il y en a qui le font. Mmh. Après, leur état mental, il est comment?
Voilà, c'est ça.
Il est comment? Il faut qu'elles disent la vérité. Parce que moi aussi, j'en ai marre. Mmh. Des comptes Insta, des mamans parfaites là. Oh là 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 là. Elle me déprime.
Ouais, 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 clairement.
Parce qu'il y a des fois, elles craquent ces femmes.
Mais oui.
Mais vont jamais dire.
Non.
Et ça me dégoûte.
Ouais. Ou alors un jour comme ça, elles disparaissent et elles reviennent 6 mois plus tard en disant bah ouais, j'ai craqué. Ou alors un jour comme ça, elles avouent oui bah en fait j'ai une nounou à domicile, j'ai enfin voilà tout ce que tu vois.
Dites la vérité.
C'est ça.
Des fois, elles ont des femme de ménage.
Oui.
Accordez-vous. Non, mais attends. Ça, par contre, c'est si on peut.
Mm.
Sachez que c'est déduit des impôts.
Oui, 50%.
Si tu peux, prends une nounou une fois par semaine, une femme de ménage une fois par semaine. La vérité. Elle te fait ton gros ménage 2 heures.
Oui.
C'est pas comme si on est à Paris, on a des petits apparts. C'est pas comme si on a des duplex.
Duplex. Ouais.
On a des petits appartements à Paris. Prenez 2 heures dans la semaine. Prenez-nous, ça va vous, une femme de ménage, pardon, ça va vous soulager.
Ouais.
Vous serez plus sur les nerfs parce qu'il y a une chaussette qui traîne. C'est pas grave. Votre enfant, il peut faire un peu du bordel dans sa chambre. C'est pas la fin du monde.
C'est juste du rangement après, de l'entretien.
De l'entretien. Mmh. Franchement. Nos mamans, elles nous le disent en plus. Moi, je sais que souvent elles disent, allez, fais-toi aider, parce qu'elles savent qu'elles ont galéré, elles.
Ben oui, clairement. Et quand tu viens d'un milieu modeste, moi, au début, pareil, ma mère, elle me disait, prends une femme de ménage. Mais moi, je me disais, mais non, en fait, toi, t'as eu 6 enfants, t'étais toute seule à la maison, il n'y avait personne pour faire ton ménage. Et moi, je me vois pas, en fait, faire venir quelqu'un. Moi, je suis assise là et la dame a fait le ménage, tu vois. Et je trouvais pas ça super cool parce que ça me faisait un peu culpabiliser. Mais en fait, bah, quand mon fils est né, j'ai fait appel à une femme de ménage parce que ouais, j'en pouvais plus. Bah, quand elle faisait le ménage, moi je rangeais. Et donc en fait, c'était comme si c'était ma sœur, ma cousine ou quoi qui était venue en fait m'aider. Elle faisait le nettoyage de fond et moi bah je rangeais le canapé, je rangeais le salon, je rangeais la chambre de mon fils. Et comme ça, au moins, ça me faisait pas culpabiliser. Au bout de 2 heures, la maison elle était nickel. J'avais pas trop travaillé, mais en même temps, bah voilà, je savais que c'était pas elle qui avait tout fait quoi.
Mmh.
Et voilà, tout et simplement. Ben...
Laisse-la faire, même.
Franchement, au début, j'y arrivais pas. Hein. Au début, j'y arrivais pas. Après, oui, avec le temps, tu t'habitues à sa présence. Ouais. Elle est là, elle fait les choses et toi, tu vas qu'à tes occupations. Et c'est vrai qu'au début, ouais, j'avais du mal. Mais après, en fait, tu réalises que c'est tellement, en fait, un soulagement. C'est tellement une, enfin, ça fait du bien. Et en plus, tu la payes pour ça. Donc, j'ai arrêté de culpabiliser. À la fin, je l'ai laissé faire. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu du mal. Et j'ai des copines aussi qui arrivent pas à passer le cap à cause de ça. Mais en fait, il faut juste se dire que voilà, c'est une prestation que tu payes. Elle est payée pour ça. Et voilà, il faut en profiter.
Mais qui nous a mis ça dans la tête que nous, on est obligé de faire le ménage tout le temps? On n'a pas d'autre chose à faire. Mmh. On a le droit de faire le ménage. On fait la vaisselle tous les jours.
Ouais.
On nettoie notre plaque tous les jours quand on fait à manger.
Mmh.
On fait le linge. On lave le sol dans la cuisine et tout tous les jours. Il n'y a pas de problème. On va le faire, ça.
Mmh.
Mais en vrai, le ménage de fond...
Mmh.
En plus, tu sais quoi, pour déculpabiliser, c'est simple. Dis-toi que tu donnes du travail à cette femme. Oui. Ça se trouve, elle a des enfants à nourrir aussi.
Oui.
Moi, c'est ce que je dis. Hein. Moi, quand je la vois arriver, franchement, je me cale sur mon ordinateur. Je lui dis, ma chérie, alors aujourd'hui, s'il te plaît, tu peux m'aider à faire ci, ça, 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 ça. Des fois, quand je peux l'aider, je l'aide aussi. Mais oui, sinon, je fais ce que j'ai à faire. Je dis, ça, je suis en train aussi de lui donner un travail.
Oui, clairement.
Donc elle va pouvoir aider sa famille. Mmh. Allez, hop, déculpabilité. Déculpabilisation, je sais pas comment.
Ouais, oui, c'est ça, déculpabilisation. Oui, non, mais c'est ça. Et franchement, c'est vrai que ça fait du bien. Et ça te fait du bien, en fait, au moral, quoi. De te dire que ça, tu décharges ça, en fait. Ta charge mentale, elle est toujours là, mais t'as au moins ça en moins et ça fait du bien, tu te sens mieux même toi-même et tu peux même en profiter pour t'occuper de toi, tu vas prendre un bain, tu fais ce que tu veux, quoi.
Et c'est pour ça que je dis, tu vois, si on est capable de le faire avec le ménage, on est capable de le faire dans plein d'autres domaines.
Ouais.
On est capable, quoi. Il faut laisser les choses, il faut lâcher prise. Nous, les femmes, il faut qu'on apprenne à lâcher prise. Nos enfants, ils nous appartiennent pas. Ils sont pas à nous. C'est nos enfants. Mais ils vont partir un jour ou l'autre. On est là pour leur donner le maximum. Mais on doit pas nous, comment vous voulez donner votre maximum à votre enfant si vous incombez de ménage, de ceci, de tout, de trucs. Le travail, c'est bien. Accordez-vous un jour dans la semaine où c'est que vos enfants, 100%, 100%. Ils choisissent ce qu'ils veulent manger, ce qu'ils veulent faire. Laissez-leur la liberté aussi. On est trop derrière nos enfants et ça saoule, ça nous saoule, ça saoule tout le monde. Un jour, moi, le dimanche, c'est le jour de Timothée. Il fait ce qu'il veut. On veut faire quoi ? Tu veux faire quoi ? Du vélo ? Ça me saoule, hein ? Je suis fatiguée. On va aller
faire du vélo.
Tu veux jouer au Lego ? On va jouer au Lego. Tu veux ? On a oublié aussi des fois d'être un peu enfant avec nos enfants. Et ça, quand on partage des moments comme ça, ça nous fait du bien, ça soulage. On commence le lundi au top. Le lundi après-midi, ta nounou, elle vient, elle nettoie. Enfin, ta femme de ménage, elle vient, elle nettoie tout.
Ouais.
Ta vie, elle est bien.
C'est clair. Et puis même pour eux, en fait, ça leur fait des bons souvenirs.
Ouais,
ça leur fait des super bons souvenirs. Moi, les souvenirs que j'avais quand ma mère, elle jouait pas trop avec nous. Mais par exemple, j'avais des Barbies et avec moi, enfin, ce qu'on faisait, c'était qu'on lui fabriquait des vêtements. Donc, des petits maillots de bain, des trucs comme ça avec des bouts de tissu. Et moi, c'est des super bons souvenirs. Alors que pour elle, c'est un truc basique, tu vois. Et le fait d'accorder ce temps-là à nos enfants, bah, même pour eux, en fait, quand ils seront plus grands, ils vont se dire, mais en fait, c'est trop bien. Je faisais ça avec ma mère, ça et ça. Alors que elle avait du travail, elle était occupée et tout. Mais on partageait des bons moments ensemble. Et ça, c'est cool.
C'est important.
Ouais.
C'est important. Un petit jeu de cartes, un petit jeu de quoi. C'est trop sympa.
Non, c'est clair. Et donc, est-ce que tu te souviens d'à quel moment est-ce que tu t'es sentie devenir mère?
Bah, le jour où j'ai vu mon fils, hein.
Ouais.
Mais pas que. parce que je pense que, mais on en avait parlé, mais je pense que après j'ai réfléchi encore, je pense que tu te sens mère quand vraiment, comment t'expliquer ça? Parce que j'y ai repensé. Mais tu vois, quand ton enfant, il est malade, quand il a vraiment besoin de toi, quand tu sais que là, sans toi, il peut pas vivre. Là, tu te dis, OK, j'ai une responsabilité. Si je suis pas là, cet enfant, il va pas survivre là. Donc, à un moment donné, il faut faire le taf. Et puis, tu sais, t'as le premier regard là.
Ouais.
Quand t'es enceinte, il y a plein de mamans qui disent, ouais, dès le premier moment où je l'ai senti dans le ventre, j'ai senti que j'étais mère. Moi, c'était pas vraiment mon cas. Parce que, déjà, c'était très étrange pour moi, le bébé qui bouge dans le ventre et tout.
Ouais.
Tu vois. Mais, quand je l'ai vu, le regard là, je me suis dit, OK, là, je suis maman. Là, ça, c'est mon enfant, vraiment. Il va falloir que je sois là pour lui. Si je lui donne pas à manger, mais qui va lui donner à manger? En plus, j'ai allaité, donc. Et encore plus, ce sentiment de, si je ne suis pas là, personne pourra le nourrir. Il va pas survivre sans moi. Il a besoin de moi. Et puis, ces enfants-là, voilà, c'est là où ça commence le mom shaming, même. Quand ils te regardent, le premier regard, là, c'est genre, le petit regard de, aide moi, je suis là, je suis trop fragile.
Ouais. Les yeux mi-clos. Oh là là, ouais,
je vois. Oh là là. Ce regard-là, ça peut te tuer.
Ouais.
Donc, voilà, je pense que c'est là. Hein. Et puis après, tu te sens en mer tout le temps. Déjà, ton enfant fait que t'appeler maman, maman, maman.
Là, tu sais qui tu es. Hein.
Là, tu sais que tu es mère. Mais non, mais en général, c'est ça. C'est, je pense, le premier regard de ton enfant. Mais les premières fois où, tu sais, il est malade, où tu peux plus dormir parce que tu sais pas. Moi, jusqu'à aujourd'hui, mon fils, je peux pas aller me coucher si j'ai pas vérifié s'il est couvert.
Ouais.
Mais il a 6 ans. Et j'ai fait ça tous les jours de ma vie. S'il se couche, déjà il se couche avant moi, je range la maison avant d'aller dormir, je range les trucs, ou bien je regarde la télé, ou bien je prends un thé, ou bien je suis sur mes mails ou quoi. Mais après, avant d'aller me coucher, je regarde s'il est couvert, je recouvre. Ça, si ça, c'est pas être maman, je sais pas c'est quoi.
Franchement, c'est clair, il y a personne d'autre qui le ferait. Hein.
Ouais.
C'est clair. Et est-ce que tu as une anecdote ou un conseil te concernant toi et ta maman à nous partager?
Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère très supportive, comment on dit ça? Supportrice.
Ouais.
Qui me soutenait beaucoup.
Voilà, qui t'a soutenue.
Voilà. Et donc, j'ai une anecdote, j'en ai plein, mais j'ai une anecdote précise. Quand j'étais au lycée, non, au collège, parce que je me demandais la dernière fois si c'était au collège ou au lycée. Bon, au lycée, je pense que c'était au lycée ou au collège. Non, c'était au collège. Et on parlait de, donc, en histoire, géographie, de l'Afrique, etc. Et est venu le fameux moment où on parle des pays du tiers-monde. Et l'Afrique. On dit, bah voilà, et puis l'Afrique, et puis il y avait l'exemple de la Côte d'Ivoire. Sauf que, le sujet est un peu sensible. Donc, voilà, Côte d'Ivoire, pays du tiers-monde, on montrait que des images de la tristesse, de la pauvreté, de.
Des enfants malnutris.
Mal nourris, les ventres comme ça.
Voilà, et tout maigre, oui.
Ça existe, mais c'est encore rentré dans un. Bon, bref, c'est un autre débat. Et donc, du coup. J'ai levé la main et j'ai expliqué que moi je suis pas d'accord avec ça, cette image de la Côte d'Ivoire ça me plaît pas. Moi je suis en Côte d'Ivoire régulièrement, c'est pas ce que je vois. Pourquoi ils nous montrent toujours ça? Pourquoi ils nous disent pas justement que c'est en développement, etc., etc., etc. J'ai voulu faire ma rébellion. Je me suis fait donc virer de la classe. Je suis allée voir le CPE. Le CPE m'a donc virée pour la journée. Donc voilà. Donc ma mère est venue me chercher et ça s'est arrêté là, sauf qu'après ils ont appelé ma mère, ils l'ont convoquée, ils ont demandé quel jour est-ce qu'elle était disponible. Moi j'ai dit à ma mère, quel jour est-ce que tu es disponible? Ma mère elle a dit, tu leur dis demain à 18h, je n'ai pas d'autre créneau. Moi j'ai dit, ouh, pourtant maman tu es mère au foyer maintenant, tu as du temps pour toi. J'ai dit, ça va chauffer pour moi en fait.
Ouais.
Commence à trembler, le lendemain 18h, ma mère elle arrive au lycée, au collège. Le CPE parle à ma mère et lui explique un peu. Ma mère, elle dit, vous avez terminé? Elle dit, oui. Elle dit, oui, j'ai terminé. Ma mère, elle dit, écoutez, ma fille a raison. Ce que vous dites, c'est pas correct. Ceci, cela. Je peux pas punir ma fille pour ça. Ça, en tout cas, voilà, voilà. Mais comment j'ai regardé ma mère, j'étais choquée. Je me suis dit, waouh, she got my back. Ah, c'est trop bien là, elle me soutient grave et tout, et je suis trop contente.
Ben oui.
Et par contre, quand je suis rentrée, à peine dans la voiture, ma mère, elle m'a dit, plus jamais tu manques de respect à tes professeurs. Plus jamais tu fais ça. Plus jamais je t'entends mal parler. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Mais finalement, je me suis dit quand même, devant les gens, ma mère aura toujours... Elle me soutiendra toujours. Elle va jamais me comme d'autres parents. Oui, qu'est-ce que tu fais?
Frappez-la.
Voilà. Moi, je vais la frapper.
Oui,
je vais
voilà.
la frapper la
oui,
prochaine fois.
C'est ça.
Frappez-la.
Ouais,
ouais, moi-même, voilà. Je la tape. Même si ma mère elle me frappe, elle allait pas dire pour m'humilier devant les gens.
Exactement.
Surtout si la cause était louable. Si j'avais vraiment mal parlé, ma mère elle aurait pas réagi comme ça. Mais j'ai voulu défendre quelque chose de défendable. Ma mère, she got my back. Et pareil, c'est une autre anecdote rapide, mais quand en CM2, j'ai failli redoubler, pour rentrer en sixième. C'était une année difficile, c'était l'année où on avait déménagé. Mmh. Et pareil, le directeur, il demande à ma mère, est-ce que votre fille va redoubler? Je pense que votre fille va redoubler, mais ça dépend de vous. Mmh. Et j'étais assise à côté, ma mère, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit, est-ce que tu peux aller en sixième? Mmh. J'ai dit oui. Elle m'a dit, est-ce que tu vas redoubler quand tu vas arriver en sixième? Est-ce que tu vas le faire? Tu vas y arriver? Tu peux aller en sixième? J'ai dit oui. Elle a dit au directeur, ma fille a dit que elle peut aller en sixième. Donc elle va aller en sixième. Ah, quand on est allé dans la voiture, même chose. Il t'a redoublé. Ma fille, si t'as redoublé, de toute façon, je vais te frapper. Ah. Mais au moins, ouais. Devant les gens, j'ai su que ma mère, elle serait toujours, elle allait toujours me soutenir. Et d'ailleurs, je lui fais un gros bisou et un gros big up à ma mère parce qu'elle a mis pendant un an sa vie en stand-by. Là, j'ai divorcé, donc pendant un an, ma mère était avec moi. Mmh. Elle a mis sa vie en stand-by, son appartement à Lyon, tout quitté pour venir à côté de moi et me soutenir dans cette épreuve parce que ma mère, comme elle a déjà divorcé, elle savait que c'était difficile. Et elle s'est dit, je veux pas que ma fille elle sombre, je veux pas que ma fille soit mal, je veux qu'elle continue ses affaires. Mmh. Donc, elle m'a soutenue, elle était là, s'occuper de mon fils. Et moi, j'ai pu travailler, j'ai pu continuer à vaquer à mes occupations, l'esprit tranquille. Donc, vraiment, pour vous dire que jusqu'à ce mindset de ma fille, c'est jusqu'à la mort, là. Ça, vraiment, ma mère, elle l'a. Et ça, c'est quelque chose que j'essaierai de faire du mieux que je peux avec Timothée, ça, c'est sûr. Ouais.
Ah, c'est top. Et j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu mets en place dans le quotidien pour transmettre ta culture à ton fils?
Alors, mon fils, ça va passer par la nourriture.
Ouais,
on est les mamans, on est nourricières. Donc, j'essaye de lui faire des plats, quoi. Les sauces gombo, même s'il n'aime pas. Mm. Bon, lui, il va dire, oui, c'est les sauces africaines. Maman, tu fais trop les sauces africaines. Les sauces africaines. Mais en tout cas, au moins, comme ça, il connaît. Et puis, ça passe aussi par bien sûr, la musique. Mm. Mais au-delà d'être vraiment dans la culture, que la culture africaine, c'est vraiment dans la culture noire. Mm. Donc, c'est ce que j'essaye de lui transmettre. Et jusqu'à présent, il est encore petit, mais jusqu'à présent, ça va. Mon fils, il s'apprécie. Mm. Et il aime sa couleur de peau.
Ouais.
Il se trouve beau. Il n'a pas de complexe avec ses cheveux.
Mm.
Pour l'instant, quoi, parce que je trouve qu'il est encore jeune. Après, ça revient avec les autres. Hein.
Oui.
Quand les autres vont commencer à devenir de plus en plus stupides, que lui va devenir un peu, peut-être, j'espère pas. Mm. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de lui montrer. Beaucoup de télé, de programmes où il y a des petits enfants, où il y a des enfants noirs, des livres, comme je disais, Luther King, Mandela. J'essaye de choisir aussi des livres où les personnages sont noirs. Pas que, hein, je fais pas que, mais dans la mesure du possible.
Mm.
Comme ça, au moins, il connaît sa culture. Même si des fois, ça c'est rigolo, parce que des fois, il se demande pourquoi je fais ça. Parce qu'il me voit pas comme noire, moi. Moi, il me dit que je suis beige rose. il dit, moi, je suis marron, maman. Moi, je suis marron, mais toi, tu es beige rose. Alors, pourquoi tu veux toujours qu'on fasse des choses de marron? Non, j'essaie de lui faire comprendre que marron, là, il y a les shades dedans, il y a les nuances.
Ouais.
Donc voilà, on en est là. Mais c'est rigolo et puis c'est une bonne... Il faut en parler parce qu'il y a des parents qui ne parlent pas de ça avec leurs enfants. Ils leur disent pas, mon fils, tu es noir.
Mm.
Ma fille, tu es noire. Ils le découvrent à travers les autres et ça leur fait mal,
ouais,
en fait.
Ouais. Et c'est vrai qu'ils le découvrent à travers les autres et pas forcément de la meilleure des façons. Donc, c'est encore pire.
Exactement.
Ou alors, ils le savent, mais les parents ne le valorisent pas spécialement non plus.
Mm-hmm.
Et donc, ça, pareil, hein, à partir du moment où tes parents ne te le valorisent pas et que dehors, en plus, on se moque de toi, bah, c'est fini, quoi.
C'est ça. Et les parents qui disent, qui parlent mal des Noirs devant leurs enfants noirs. Mm-hmm. Mais non. Moi, il y a des trucs que je peux pas faire. Donc ça, c'est hyper important.
Mm.
Peu importe de quelle origine vous êtes, de quelles sont vos cultures et traditions, essayez de quand même transmettre ça à vos enfants de la meilleure manière. Et puis, n'attendez pas que les autres leur fassent sentir qu'ils sont telle ou telle chose avant de leur dire, dites-leur quoi. Tu es noir, mon fils, tu es noir, ma fille, tu es belle. Voici, tes cheveux sont crépus. Crépus, ce n'est pas une insulte.
Oui.
Tes cheveux sont crépus, c'est des beaux. Ton cheveu est tellement beau, c'est crépus, joli, un beau crépus. Non, mais voilà quoi. Parce que quand ils entendent crépus à l'école, waouh, on m'a insulté.
Ouais. Alors que pas du tout.
Alors que pas du tout, si c'était sorti de la bouche de ta maman, ça, tu l'aurais mieux perçu.
C'est vrai. Bon, en tout cas, c'est un très beau mot de la fin, Tatiana. Bah, vraiment, Tatiana, je te remercie. On arrive là à la fin de, cet enregistrement.
Merci à toi, Adia.
Ouais, c'était vraiment cool. C'était vraiment, comment dire, c'était motivant. Que ce soit du côté de ta carrière ou même de la gestion de la vie de nos enfants. C'est vrai que c'est le genre de discussion que j'aime parce que bah, ça nous permet de nous remettre en question.
Ouais, c'est sûr. Sans culpabiliser.
Sans culpabiliser, bien évidemment. Bah, vraiment, Tatiana, je te remercie beaucoup. C'était vraiment, vraiment gentil.
Merci à toi encore une fois.
Ah, c'est gentil. Et je te dis à bientôt.
À bientôt. Ciao. Bye bye.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, là-bas je partage des phrases de motivation, des astuces au quotidien, on discute et on se construit une vraie communauté. Le nom de ma page est Ayonene Podcast. À tout de suite.